Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport, et on m'a demandé expressément, ma hiérarchie qui se situe juste à mes côtés, m'a demandé d'être calme, de ne pas faire de saute de voix, car paraît-il c'est désagréable pour l'auditeur. Donc j'ai décidé de passer l'intégralité de cette émission sur cette tonalité-là. Ça te va, Maxime ?
Là, c'est la pire décision de l'histoire et surtout la décision la plus intenable de l'histoire te concernant avec
«
je
ne
prendrai pas de goûter après mon burger
». Vous êtes déjà mort.
Voilà.
Bon, j'espère que tout le monde va bien. On va évidemment parler de l'équipe de France à J-1 avant le 8e de finale face à la Pologne. Les choses sérieuses démarrent. Et pour parler de ce France-Pologne, trois sujets. On démarrera évidemment avec « c'est tout chaud, ça vient de tomber ». L'équipe probable des Bleus face à la Pologne, qu'on vous révélera en exclusivité mondiale et internationale dans quelques instants. Et ensuite, Maxime, on parlera de quoi ?
Eh bien, on parlera du tournoi des Bleus. Excusez-le. Non, on parlera du tournoi des Bleus, des huitièmes de finale qui commencent. On va se poser la question suivante. À partir de quel stade un tournoi, une Coupe du Monde serait réussi pour les Bleus et évidemment surtout Didier Deschamps, puisque c'est son cas qui est en filigrane et qui se joue, on va dire, sur cette Coupe du Monde.
Et on terminera par Robert Lewandowski. Et on se demandera comment arrêter ce bon vieux bébert lors du 8e de finale face à la Pologne. Les Bleus en ont beaucoup parlé. Maxime a tout noté, moi rien du tout. Donc vivement ce troisième sujet où ce sera du 100% du puits.
Il y a une grosse bascule qui est en train de s'effectuer. C'est comme dit Didier Deschamps, c'est pareil, mais c'est pas pareil, les huitièmes de finale. Il faut garder la routine, mais pas trop. Donc on a gardé la routine, c'est les trois sujets.
Et
ça, a priori, ça bougera pas jusqu'à la fin.
Non.
En revanche, j'ai l'impression que le ton a évolué.
Changé.
C'est l'excitation, évidemment. Puisque Les digues cèdent. Et demain, 16h, 8e de finale, France-Pologne. Match rare, affiche rarissime et en revanche un 11 de départ qui est bien connu puisqu'a priori, Martin, selon le huis clos du jour, on aura les 11 qui ont joué et battu le Danemark lors de la deuxième journée de la phase de poule.
Exactement, a priori, ça ne devrait pas bouger, donc du poste de gardien jusqu'au poste d'avant-centre. Je vais faire vite parce que vous la connaissez. Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez. Au milieu, Griezmann, Tchouaméni, Rabiot. Et devant, évidemment, Mbappé, Giroud, Dembélé. Maxime, est-ce que pour toi, c'est la meilleure équipe possible ? Est-ce que c'est celle qu'il fallait aligner face à la Pologne ?
Alors ça, je te le dirai après le match. Mais
merci,
mais c'est
Jean-Claude Prisse
de Risque. C'était une équipe évidente. Voilà. On répète suffisamment que cette Coupe du Monde, pour l'instant, est un copier-coller de 2018. Bah, Didier Deschamps a trouvé son équipe sur le deuxième match où elle était plutôt bonne contre le Danemark. Il remet les mêmes, évidemment, lorsque les choses sérieuses commencent, c'est-à-dire pour ce huitième de finale face à la Pologne. Et il a raison, il y a déjà quelque chose qui me plaît. Alors évidemment, c'est moins marqué que face à la Suisse. C'est qu'il y va avec ses forces. C'est-à-dire que souvenez-vous de la Suisse avec le fameux miroir d'être passé à 3. Quelque chose qui n'était à l'époque pas travaillé. Là, au moins, il y va avec les forces. Et il a raison, puisque il y a eu une vraie montée en puissance de cette équipe entre le premier et le deuxième match. Contre le Danemark, ils ont fait vraiment un très très bon match. Un petit creux, on va dire, au début de la deuxième période, mais on a quand même vu une équipe qui, parfois, semble sur un équilibre précaire et qui tient aussi au positionnement de Griezmann, mais n'empêche que ça fonctionne. Donc, ça aurait été dommage de changer, parce qu'en vrai, imaginez qu'il change demain et qu'il se retrouve avec une équipe qui ne marche pas, alors qu'il avait la solution, on va dire, sous les yeux ou sous la main, ça aurait été dommage. La bonne nouvelle, Martin, aussi, c'est évidemment qu'il y aura Théo Hernandez, parce qu'on a eu une toute petite frayeur.
Personnellement, je n'ai pas dormi de la nuit parce que si Deschamps n'avait pas eu Théo Hernandez, se retrouver avec Eduardo Camavinga, arrière-gauche de l'équipe de France en huitième de finale de la Coupe du Monde, je pense que c'était le choix le plus risqué de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Non, là, on a vu ce que ça avait donné face à la Tunisie. Je pense que ça ne serait pas passé face à la Pologne. Donc, évidemment et heureusement, Théo Hernandez sera là. Et le staff de l'équipe de France avait raison. Alors, voilà, moi, quand je vois cette communication qu'on nous dit c'est juste une contusion, faut pas se faire de soucis, moi, j'attends toujours de voir, parce que quand il y a un joueur qui rate un entraînement à J-2 d'un match des Bleus, c'est rarement une bonne nouvelle. Bon, là, il se trouve qu'il était là à J-1, donc de toute façon, il sera là demain au coup d'envoi. Donc, c'est effectivement l'excellente nouvelle. Je rejoins ce que tu disais, Maxime. Moi, ce qui me plaît, c'est que Didier Deschamps ne fait pas d'expérience, que finalement, les expériences, bah, il s'est servi du premier tour pour faire ses expériences et il a trouvé la bonne formule. Donc, là, voilà. Moi, mon seul petit bémol sur cette compo-là, c'est je me demande si Didier Deschamps aligne aujourd'hui ses deux meilleurs défenseurs centraux. Je me dis aussi que c'était difficile de faire autrement. Mais quand tu vois le match et le début de compète, donc les matchs d'Ibrahima Konaté depuis qu'il est arrivé au Qatar, il me semble quasiment incontournable. Upamecano aussi et Raphaël Varane beaucoup moins. Après, évidemment, c'est un huitième de finale. Deschamps a très peu de cadres dans cette équipe. Il a besoin de structurer une colonne autour de Lloris, Varane, Griezmann, Mbappé, Giroud, voilà, si on schématise. Et donc, il a besoin de Varane. Mais je pense que si demain, ça se passe mal pour Varane, Deschamps aura des regrets, quoi.
Ce match, c'est une bascule pour Varane parce que sa situation ressemble, alors évidemment, les pépins physiques en moins d'avant tournoi, à ce qu'avait été Griezmann, on va dire, en 2018. C'est-à-dire, c'est un leader qui a du mal à se lancer. Il est plutôt bon contre le Danemark pour son retour. Et puis après, de manière assez inexplicable, il se rate un peu face à la Tunisie. Alors, on pourrait dire il n'était pas dans l'équipe type. Mais on a senti quand même un gros coup de mou, qu'il n'était pas entouré par ses coéquipiers habituels, etc. Mais quand même, il y a quelque chose de bizarre. Et on a essayé de se renseigner un peu auprès de préparateurs physiques pour savoir ce qu'il y avait derrière ça. Mais a priori, ce qu'on nous a dit, c'est que ça ne peut pas être un coup de mou physique. En général, ça fonctionne, voilà. Donc, peut-être un coup de moins bien, mais le problème maintenant, c'est que c'est sans filet et qu'il y a un petit pari. Alors, est-ce que le pari est plus grand que de mettre Konaté sur un huitième de finale de Coupe du Monde? Je ne suis pas certain, mais en tout cas, il y a intérêt à ce que ça marche parce que la question se posera. Et puis, bah, plus on avance, plus ça sera compliqué. Et déjà, en quart de finale, si on a un défenseur central sur lequel on a des doutes sur son pouvoir d'intervention et ce qu'il fait, ce sera potentiellement problématique si toutefois les Bleus passent, évidemment.
Après, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas sanctionner Varane pour un match raté face à la Tunisie, alors même qu'il a plus de 80 sélections, que c'est l'un des meilleurs en Russie en 2018, qu'il fait un super début de saison à Manchester United, qu'il est vice-capitaine, qu'il a le poids qu'il a en équipe de France. On ne peut pas reprocher ça à Didier Deschamps, comme on ne lui reprochait pas pour Griezmann en 2018 ou en 2016 même, ou pour Pogba, pareil, en 2016. Enfin voilà, à un moment, il faut des cadres, il faut une ligne directrice dans cette équipe, et on ne peut pas sortir ceux qui ont fait la gloire des Bleus au premier échec, entre guillemets. Donc non, évidemment, mais voilà, en tout cas, il y a un numéro 1 bis avec Konaté. Alors qu'on se disait que cette charnière serait peut-être le point faible de cette équipe de France, c'est celle aujourd'hui qui semble avoir le plus de ressources quasiment.
Ouais, tout à fait. Et si tu enlèves Varane et ses 89 sélections, tu as une défense qui a moins de 20 sélections pour le plus capé. Je pense que ce serait Théo Hernandez, donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Ce que j'ai envie de voir avec cette équipe aussi, c'est qu'elle va se retrouver dans une configuration a priori différente, parce qu'on dit toujours ça, on essaye de lire les matchs avant de les jouer, et souvent ça ne se passe pas comme ça, mais on peut imaginer que les Polonais se mettent sur leur but à 10 derrière et de voir comment cette équipe qui a aussi réussi contre le Danemark, c'est une équipe qui sortait, qui ne restait pas sur son but, comment l'équilibre qui a été trouvé va pouvoir fonctionner face à une équipe qui a potentiellement défendra plus bas. On avait vu une force de l'équipe de France qui était assez rare ces derniers temps et qui pourrait être très utile face à la Pologne, c'est les centres. Typiquement, avoir Olivier Giroud sur des phases statiques, sur un jeu qui va être sûrement très 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 binaire, on va dire, demain, ça sera pas mal. On a vu Théo Hernandez, on les a vus bons de la tête, ce qui était rare. Ils ont marqué 3 buts contre l'Australie, ce qui n'était jamais arrivé en Coupe du Monde pour les Bleus, et même globalement, puisque c'est pas des équipes, l'équipe de France n'est pas réputée pour son jeu de tête absolu, même à travers les générations, et même si elle a gagné une Coupe du Monde grâce à 2 coups de tête de Zidane. Donc ça, c'est pas mal, et c'est un pouvoir en plus qu'elle n'avait pas forcément en 2018. Alors vous allez me dire, il y en a eu des coups de tête évidemment, mais sur des phases arrêtées. Là, c'est sur des jeux, du jeu placé et des actions de jeu qui a ça en plus. Donc, pour la Pologne, c'est un souci de plus parce que vous allez avoir la vivacité des ailiers, la vivacité de Dembélé, la qualité de passe d'un Griezmann et en plus Giroud dans l'axe. Donc, c'est plutôt pas mal d'avoir cette variété offensive qui ne sera pas inutile face aux Polonais.
Et on avait assez peu de doutes finalement sur ce 11 parce qu'on sait que la Pologne va être sur son but et que de toute façon, il fallait insister offensivement. Donc cette équipe de France qui peut être considérée comme un peu déséquilibrée vers l'avant, finalement, ça pose assez peu de problèmes. Ça devrait poser assez peu de problèmes pour une équipe comme, contre la Pologne. Après, est-ce qu'il maintiendra ça face, par exemple, à l'Angleterre en demi ou au Portugal, à l'Angleterre en quart, pardon, ou au Portugal en demi, ce sera une autre question. Mais en tout cas, ce nom semblait évident et c'est celui donc qui va démarrer.
Ou le Sénégal en quart.
Ou le Sénégal en quart. Parce que sachez-le. Sachez-le. Ah, je voudrais faire une toute petite parenthèse, très minime. Très, vraiment rien du tout. Et qui ne nécessitera pas forcément de rebond de ta part, Maxime.
Début de la Coupe. Je rebondirai quand même.
J'étais pas obligé. Début de la Coupe du Monde, Maxime arrive. C'est mon aîné, j'ai du respect, il en a connu des Coupes du Monde, il sait de quoi il parle. Mais je commençais un petit peu à douter ces dernières années quand il me disait en 2018, l'Allemagne va gagner la Coupe du Monde, en 2016, l'Euro il est pour l'Allemagne. Mais voilà, bénéfice du doute, de l'âge, etc. Donc là, il est arrivé, cette Coupe du Monde, cette fois c'est sûr, c'est l'Allemagne. Bon, et moi je lui avais dit, Maxime, je te parie quelque chose. Ouais, je sais, je suis audacieux, mais je suis comme ça, il commence à me connaître, moi, je suis quelqu'un rempli de panache. Non mais voilà, voilà. Et je lui ai dit, écoute Maxime, moi je te parie que le Sénégal ira plus loin que l'Allemagne dans cette Coupe du Monde. Maxime, qui est toujours prêt à gagner un peu d'argent, qui est un peu rapace, un peu rat, disons-le. Ok, pas de problème, tape dans ma main. Bah, le pari est déjà gagné. Ouais. Le pari est déjà gagné.
Alors, la suite de l'histoire, c'est qu'au premier coup de vent contraire, il a annulé le pari.
Non, mais c'est pas
mais,
ça. Non, j'ai pas annulé
mais
le pari.
Mais que je suis un seigneur et que, évidemment, je lui ai dit que je perds un repas parce que bah voilà, moralement, il avait pris plus de risques que moi. Mais ce qui est beau avec Martin, je le tiens de source sûre d'un mail qu'il a envoyé tout à l'heure à 17h01, où il explique que si l'Afrique ne place pas un de ses seuls représentants en demi, il paye un restaurant à tous de notre choix dans la rédaction. J'ai la preuve écrite ici. Bah, c'est magnifique. Bah écoute, en tout cas, je sais pas.
Ah oui, d'accord, ok. C'est un mail qu'il a envoyé en ce moment même.
Non, 17h01.
Mais j'étais...
Bravo Martin, donc j'apprécie le geste. C'est magnifique.
Qu'est-ce que c'est que ce mail ?
Merci beaucoup.
Okay, je suis pris au dépourvu. Mais de toute façon, l'Afrique placera un de ces pays en demi-finale. C'est une certitude. Voilà, Maroc ou Sénégal.
Qui ne serait pas forcément une bonne chose pour l'équipe de France.
Pas forcément si c'est le Sénégal. Effectivement. Allez, on va passer au deuxième sujet.
Justement.
Quel est-il ce
sujet ? Eh bien, justement, c'est à partir de quel stade. On peut dire que la Coupe du Monde de l'équipe de France est réussie. Il y avait la malédiction du premier tour. Elle a été effacée de main de maître par l'équipe de Didier Deschamps. Il y a eu ce petit faux pas face à la Tunisie. Mais bon, je pense que demain soir, potentiellement, on n'y pensera déjà plus parce que ce sera un astérisque. Et maintenant, c'est de savoir si l'équipe de France tombe en huitième, tombe en quart, tombe en demi, va en finale ou gagne la Coupe du Monde. À quel moment, Martin, pour toi, la Coupe du Monde sera réussie ?
Si je ne dis pas de bêtises, l'équipe de France ne s'est jamais faite sortir en huitième de finale d'une Coupe du Monde.
Tu ne dis pas de bêtises.
Si je ne dis pas de bêtises, elle ne s'est fait sortir qu'une fois en quart de finale de la Coupe
Alors,
du Monde.
Alors, si tu dis une bêtise, mais c'est le premier tour en 34 et c'est le huitième, mais ça compte pas.
Ça compte pas. Elle ne s'est fait sortir qu'une fois en quart de finale de la Coupe du Monde. C'était en 2014.
Deux fois, puisqu'en 38, ils ont été sortis.
Ah oui, en 38.
Mais bon, bref, on va dire la Coupe du Monde moderne. Voilà. En fait, c'est un peu tout ou rien.
C'est un peu soit premier tour, soit demi-finale. Moi, je considère, compte tenu de son statut championne du monde, compte tenu de ce qu'elle a montré en phase de poule, compte tenu de son tableau désormais, je considère que tout autre résultat qu'une finale n'est pas un bon résultat pour Didier Deschamps et pour l'équipe de France. Car ce qui se dresse en huitième, on va pas, voilà, Pologne, ce sera un échec monumental. Car l'Angleterre qui n'a plus gagné de tournoi international depuis 1966, l'Angleterre qui n'a plus fait de finale depuis
l'Euro.
Le dernier Euro, oui. Exactement. Oui, mais l'Euro, ça compte pas. Moi, je te parle de Coupe du Monde. L'Angleterre qui, certes, a montré certaines choses, mais qui a montré aussi des failles. Pour moi, l'équipe de France sera quand même favori en demi, en quart, en huitième. Et donc, elle doit atteindre cette finale. Alors après, face à l'Argentine ou au Brésil, qui pour moi sont au-dessus, ce sera une autre histoire. Mais voilà, pour moi, je place le curseur au niveau de la finale.
Moi, je le passe à un tour en dessous pour la demi-finale. Pourquoi ? Parce que le top 4, quand vous êtes champion du monde en titre, c'est un minimum. Évidemment, un huitième, c'est un immense échec et il signe la fin de Didier Deschamps à coup sûr. Déjà, il n'a pas prolongé. On sait que Noël Le Graët a mis en balance son poste plus ou moins pour la suite en disant s'il est en demi, en gros, c'est lui qui choisit. Mais a priori, il a toutes les cartes en main. Didier Deschamps restera-t-il pas ? Ça, j'en sais rien.
Et pour toi, s'ils font sortir en demi par l'Espagne ou le Portugal ou l'autre, si c'est quand même c'est pas un mondial.
Ouais, parce que faut quand même. Ouais. Okay. Encore une fois, il y a toujours pareil. C'est dire ça aujourd'hui. Ça dit tout et rien, c'est-à-dire que si vous arrivez en demi-finale, vous avez 7 suspendus, j'ai une bêtise, 4 blessés,
évidemment,
vous faites un match
théorique, oui.
C'est pas la même chose. Quart de finale, au vu du tableau, que ce soit l'Angleterre et le Sénégal, pour moi, ça ne doit pas tomber. Même si l'Angleterre a fait demi-finale de la Coupe du Monde 2018, même si l'Angleterre a fait finale de l'Euro 2021, c'est quand même pas une équipe qui brille par ses certitudes, et c'est pas parce qu'ils ont plié le Pays de Galles lors de la dernière journée que ça change beaucoup de choses. Après, quand on arrive en demi-finale, on arrive dans un top 4. Gagner deux fois la Coupe du Monde, il n'y a que le Brésil qui l'a fait, et l'Italie, mais c'est d'autres époques, ça fait 60 ans. Et j'estime que cette cohérence, on va dire, au plus haut niveau, c'est-à-dire que depuis que Deschamps est arrivé, ça ferait quart de finale, finale, victoire, huitième, l'Euro, évidemment, c'est le faux pas, puis demi-finale, ce serait quand même très acceptable. Ça ressemblerait à la fameuse Allemagne qui, à l'époque, avait un niveau bas, qui était en gros la demi-finale. Et j'estime qu'être dans le top 4 de la Coupe du Monde avec potentiellement l'Argentine, le Brésil et peut-être l'Espagne de l'autre côté, ça me paraîtrait acceptable, évidemment. Je ne sais pas ce que ça dirait de son avenir. Moi, je suis toujours persuadé que Didier Deschamps terminera sur cette Coupe du Monde, quoi qu'il advienne. Mais je pense que pour moi, on pourrait parler déjà de mondial réussi, si tant est évidemment qu'on connaisse les conséquences, mais la façon dont ça va se passer, ça on ne le sait pas.
L'environnement,
ouais. Mais je pense qu'à partir de demi-finale, c'est bien. Quart finale, pour moi, c'est un peu juste pour un demi-finaliste, pour un champion du monde en titre, pardon. Top 8, ça fait juste pour moi.
Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce premier tour, il a quand même regonflé les ambitions de cette équipe de France. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, on se disait, et ici aussi, hein, on se disait entre nous, alors peut-être pas sur le podcast, mais à l'extérieur, que ce premier tour, c'est finalement pas gagné, etc. Que la victoire face au Danemark, elle a quand même dessiné quelque chose. On sait à peu près ce que cette équipe vaut. C'est costaud finalement à tous les poste ou presque, alors qu'on se disait qu'il y avait des gros trous d'air, notamment au milieu de terrain. On ne parle plus depuis deux semaines de l'absence de Pogba et de Kanté, donc ça dit quelque chose quand même sur cette équipe de France. Et c'est en ça que je dis que les ambitions, elles grandissent à mesure que cette équipe avance. Aujourd'hui, il me semble, sur ce que j'ai vu, et j'ai vu 80% des matchs de cette Coupe du Monde, que seul le Brésil, moi, me semble au-dessus de ces bleus-là, grâce à leur défense de fer et non pas forcément grâce à leur attaque de feu. Et donc, si je mets juste le Brésil devant, vu qu'il n'est pas dans la partie de tableau de l'équipe de France, voilà pourquoi pour moi, la finale me semble une destination minimum. Je sais, c'est un peu provoque de dire ça, parce que de toute façon, c'est une Coupe du Monde et que voilà, on ne sait pas où ça nous mènera, mais moi, je ne vois aujourd'hui que le Brésil plus fort que ces bleus-là.
Et si on compare, et comme tu dis, il y a évidemment les circonstances de ce qui va se passer avant, mais les circonstances de ce qui s'est passé auparavant, c'est important aussi.
Oui.
L'après et l'avant, c'est important. Pourquoi ? Parce que si je compare avec 2021, avec l'Euro, le match contre l'Allemagne, formidable, ça, il n'y a rien à dire. Après, la Hongrie, c'est pas terrible. Et le Portugal, je suis désolé, ça reste... À l'époque, je me souviens que, les gens venaient nous voir sur les réseaux sociaux. Vous dites que, c'était pas suffisant. Et évidemment, la fin était mieux, mais ça arrangeait tout le monde. Et j'avais vu une équipe déboussolée et surtout une équipe dont je n'arrivais pas à tirer de conclusion. C'est-à-dire, je ne savais pas où ils allaient, tout simplement. Donc finalement, quand vous prenez un peu de recul, vous vous dites, Didier Deschamps vous dit toujours aujourd'hui que c'est les 10 dernières minutes face à la Suisse. Non, il y avait plus que ça et ce qui les a précipités dans le gouffre et vers l'élimination.
Là, on ne le sent pas.
Là, on ne le sent pas, voilà. Là, ce serait vraiment une immense déception parce que ça voudrait dire que ce qui a été fait avant et qui est assez clair... Alors, est-ce que l'équilibre de cette équipe n'est pas trop précaire quand ça va grimper ? Peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas cette impression-là. Et au moins, cette équipe a une identité comme elle avait une identité en 2018. Donc, ce serait d'autant plus décevant qu'elle tombe en huitième de finale. Et évidemment, si elle passe en huitième de finale, c'est a priori que ça ira de mieux en mieux.
En quart,
mais même en huitième.
Oui,
et en quart, ce serait aussi décevant. Et à partir des demi, voilà, c'est... Alors, je ne vais pas dire qu'on jette la pièce en demi, ce n'est pas vrai, c'est tout sauf ça, mais on arrive quand même sur un tournoi très resserré où généralement il y a de moins en moins d'équipes surprenantes et là où il faut tirer le meilleur et où ça se joue à des détails. Donc c'est là, à mon avis, pour moi, qu'une élimination deviendrait quand même assez acceptable pour cette équipe de France.
On passe à la Pologne, Maxime, parce que si effectivement on a du mal à voir le sol se dérouber sous les pieds de l'équipe de France dimanche, il y a quand même un homme qui va tout faire pour la faire trébucher. Et cet homme, il s'appelle Robert Lewandowski. Il est la star, pas l'unique, mais on va dire l'unique superstar de cette sélection polonaise. Maxime, ma question est simple. Comment on l'arrête ?
Bonne question. Et je pense que la meilleure réponse... Alors évidemment, tout le monde en a un peu parlé ces derniers jours en conférence de presse, de Loris à Didier Deschamps, en passant par Kingsley Coman. Et assez paradoxalement, j'ai l'impression que la meilleure réponse que j'ai entendue venait d'un ailier, c'est-à-dire Kingsley Coman, qui pour le coup connaît très 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 bien Lewandowski, puisqu'il a joué avec lui au Bayern de Munich, qui sait ce qu'il est capable de faire à l'entraînement et en match. Et lui, il a dit, bah, si on veut l'arrêter, il y a une solution simple, que les ballons n'arrivent pas à lui. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lewandowski est un attaquant, qu'il est à la finition, et que si le travail est bien fait avant, il aura peu à se mettre sous la dent. C'était le cas contre l'Argentine, avec une équipe qui avait décidé de défendre complètement. Ça doit être compliqué pour un joueur comme lui, parce qu'il est dans cette ère des superstars, où dans les clubs, ils sont groupés ensemble, où à côté d'eux, il y a des joueurs complètement fous. Et les joueurs de l'équipe de France ont toujours cet avantage, parce que nous on a de la chance d'avoir un vivier complètement dingue qui ressemblerait à ce que pourrait avoir un gros club européen, lui il se retrouve un peu seul et il doit faire un peu le boulot de lui-même. C'est pas évident, donc moi je pense que oui, la solution elle est là, faut éviter que le ballon arrive à lui, et c'est là qu'on va voir si l'équilibre de l'équipe de France tient la route, qui n'est pas forcément précaire quand le niveau monte.
Alors moi, je pense que plus que Lewandowski, le principal danger pour cette équipe de France, elle se situe de l'autre côté du terrain. Parce que la Pologne va tout faire pour que le héros ne soit non pas Lewandowski, mais plutôt Szczęsny. Déjà, contrairement à Lewandowski, il est chaud. Mais plus que chaud, puisque c'est le meilleur gardien du tournoi jusqu'ici. Il a arrêté deux pénaltys. Voilà, ça situe un peu le niveau de Szczęsny sur ce tournoi. Deuxièmement, c'est une équipe de Pologne qui va, comme tu le disais, défendre sur son but, qui va subir et qui va nécessairement, même si elle défend très bien et qu'elle aime ça, concéder des occasions comme elle en concède beaucoup depuis le début du tournoi. Alors peut-être qu'elle n'en aura qu'une ou deux et que là, Lewandowski aura un rôle majeur. Mais je pense que sur l'intégralité du match, Szczęsny aura un rôle plus capital que celui de Lewandowski. Et que l'issue de ce match dépend plus de la prestation du gardien que de la prestation de l'avant-centre. Parce que le scénario de ce match-là, aujourd'hui, on le connaît déjà. Et alors, à moins d'une révolution absolue dans la nuit du sélectionneur polonais, non, il est très conscient de ses forces et il sait comment faire jouer son équipe. Alors, peut-être que ce sera Lewandowski qui fera tourner la rencontre, encore une fois. Mais je pense que pour la Pologne, il vaut mieux un grand Szczęsny qu'un grand Lewandowski.
Alors... Oui, enfin, il vaudrait mieux pour eux que ce soit un grand Lewandowski qu'un grand Szczęsny, parce que ça veut dire qu'il a marqué des buts.
Oui,
mais, en effet, mais en l'occurrence, tu as raison, c'est vers ça qu'on va. A priori, il sera tout seul en pointe, ce qui dit un peu des
ambitions polonaises. Et quand on regarde son début de tournoi, il est un peu coupé des autres quand même.
Ah, oui.
Donc le Mexique y est arrivé, je pense que la France peut arriver à isoler Lewandowski quand même.
Normalement.
Enfin voilà, c'est... Et c'est mon dernier argument. Et Maxime a écrit un brillant papier, là, pour le coup. Alors,
t'as bégayé quand il a fait.
Ouais, j'ai bégayé parce que c'est tellement rare. Il y a eu un éclair de génie de Maxime.
Je m'en souviens plus d'ailleurs.
Ce matin, ouais. Non, mais t'as écrit un papier sur l'éventualité, la possibilité de voir des tirs au but. Je pense que la Pologne, c'est une issue qu'elle envisage et qu'elle fait même plus qu'envisager. C'est peut-être la seule issue dont elle pourrait sortir vainqueur cette séance de tir au but. Et là encore, Szczęsny, qui s'impose dans ce tournoi comme un spécialiste des pénaltys, contrairement à Lloris, qui lui a toujours du mal dans ce registre-là, pourrait avoir un rôle prépondérant. Alors bien sûr, là, on se projette, on va très loin. Mais toujours est-il que je pense, que Szczęsny sera plus important que Lewandowski pour la Pologne demain.
Je crois que c'était le mot de la fin.
Ça peut être le mot de la fin.
C'est le mot de la fin.
Voilà. Et
t'as pas tenu. Hein.
J'ai pas tenu.
Ah, c'était sûr.
J'ai pas tenu et je pense que ce sera pire demain pour le débrief. Parce que quoi qu'il se passe, il y aura des choses à dire, il y aura des choses qui vont m'énerver, d'autres qui vont m'enthousiasmer. pour le débrief donc, de France-Pologne. Rendez-vous vers quoi, 19h peut-être?
À peu près.
Dans le temps de mettre en ligne le podcast, peut-être plus 20h, 21h. Bon. Écoutez, ce sera parfait. Après le JT, tranquillement, on se met dans le lit, on met les écouteurs et on écoute.
Alors,
le débrief.
Il y a deux informations là-dessus.
Oui, je me couche tôt les dimanches.
Tu te couches tôt les dimanches. Le JT, surtout, je pense qu'il est avancé actuellement puisqu'il y a le match à 20h.
Ça dépend, tu peux regarder les JT sur le service public, Maxime.
C'est vrai.
Voilà. Eh oui, Maxime.
J'ai l'impression que tu vas quand même regarder Angleterre-Sénégal.
Je vais... Ah oui, ça c'est sûr que je ne raterai pas Angleterre-Sénégal. Et bah, du coup, le JT de TF1, il sera à 20h aussi, vu que les Bleus jouent à 16h.
Oui, mais s'ils diffusent Angleterre-Sénégal.
Ah, mais, oui, je suis...
mais je sais pas, en même temps, je connais pas la grille. Donc,
pas... Ouais, non, on
oui,
connaît
non,
pas
non,
la grille.
Je pense que JT... je serais très étonné que TF1 ne diffuse pas Angleterre-Sénégal.
C'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, écoutez notre podcast, notre débrief de France-Pologne demain. On se retrouve ici, quasiment à la même heure, un tout petit peu plus tard. Et bon, on verra ce qu'il en est. Ce sera peut-être le dernier podcast hein, demain.
Peut-être.
Peut-être. Ou juste celui du milieu qui lancera. Là, on... une marche triomphale jusqu'à Doha.
Là, c'est vraiment la bascule.
C'est la bascule, exactement. Merci à Monsieur Ferreira et son joli pull de Noël. Merci à Quentin Guichard pour les visuels. Merci à Maxime pour son pull Passepartout.
Passepartout, voilà. Le pull du samedi.
Le pull du samedi, le pull où on ne fait pas trop d'efforts. On se dit qu'est-ce qu'on va faire. Il n'y a personne au boulot, on ne va pas faire d'efforts pour s'habiller.
Et encore, vous n'avez pas vu le bas.
On n'a pas vu le bas. Ce qui est bien, c'est que quand on se couche, on n'est pas obligé de se changer.
Et
voilà.
Exactement.
Voilà. Et bah, donc, on se donne rendez-vous demain pour le débrief de France-Pologne. Ciao, ciao.
Salut.